Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Les aventures de Cécile et Martine continuent en deuxième semaine, car nous avons eu la grande chance d'écouter Cécile Carrier la semaine précédente évoquer le mobilier funéraire que l'on peut rencontrer au Musée de la Romanité. Et nous étions restés en arrêt, il faut croire, puisqu'on a attendu une semaine.
Voilà.
Et nous étions restés en arrêt devant une sculpture magnifique de la femme en prêtresse de Cérès.
Et oui, Martine, bonjour à tous. Nous avons laissé le suspense pendant une semaine. Mon Dieu. Donc, on parlait du fait que de l'origine des portraits sculptés dans le milieu funéraire. Donc, on a parlé des fameux masques que l'on prélevait sur le défunt. Et donc, c'est à partir du moment où on a commencé à réaliser des portraits en pierre. Donc, ça démarre à Rome, je dirais, vers la fin du IIe siècle, avant Jésus-Christ, sous l'influence hellénistique, puisque c'est le grand moment où les Romains voient arriver tout ce qui est ramené de la conquête de la Grèce. Et en Grèce, on était déjà en plein dans le portrait, impérial, des grands dirigeants, mais aussi funéraires, depuis pas mal de temps. Donc, en fait, les Romains finalement accueillent cette mode, la réceptionnent et l'adaptent, évidemment, comme toujours, à leur mentalité. Et donc, quoi de mieux qu'un portrait pour commémorer le défunt et aussi la famille du défunt.
Alors là, c'est une jeune femme, une jeune fille,
Non, elle n'est pas si jeune que ça, ma photo la lisse beaucoup, mais quand on la regarde de près, c'est une femme, c'est pas une femme âgée non plus.
Vous voulez dire qu'on voit ses rides quand on a...
On voit que le visage est un peu plus empâté qu'une toute jeune fille, mais c'est pas non plus une femme très âgée non plus. Donc, dans cette sculpture, dans ces portraits funéraires, ce qu'on trouve régulièrement, donc, c'est la statue, la statue avec le portrait de la personne, la statue en pied, en hand-boss. Au musée, je voudrais mettre en avant deux statues qui sont intéressantes. Donc, celle, qui vous plaît tant, de la prêtresse de Cérès. C'est vrai qu'elle est magnifique, puis elle a été bien restaurée, bien nettoyée. Donc, elle se trouve dans l'espace funéraire, dans une petite niche. On lui passe un peu devant sans trop bien la voir.
Oui, parce qu'elle est assez petite, je crois.
Oui, elle fait 1m7, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, elle est vraiment assez petite. Et puis, comme elle est coincée dans sa niche, là, pour la pauvre, c'est vrai qu'on la voit pas forcément très bien. Puis, on est tout de suite attiré quand on arrive depuis du secteur de la vie quotidienne. On tourne. On est attiré soit par le couloir de la religion, soit par les énormes stèles funéraires dont on a parlé tout à l'heure, qui sont énormes et qui attirent l'œil, et qui, elles, sont bien en avant dans le passage, alors qu'elle est un peu en retrait. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à ne pas la voir.
Bon, on va lui rendre justice.
On va lui rendre justice parce qu'elle est toute mignonne. Donc, c'est une sculpture qui est en marbre. Dont la provenance est malheureusement pas vraiment connue. Soit elle vient de Beaucaire, soit elle vient de Bouillargues. C'est du Perrault, donc une fois de plus, notre cher ami Perrault brouille un peu les pistes. Hein, donc là, malheureusement, on ne peut pas savoir. Le corps et la tête ont été restaurés. Alors, on ne sait pas trop si la tête était vraiment...
Oui, je me demande.
Ça va être difficile à dire, mais bon, on va dire que ça va.
Elle tient dans l'axe.
Elle tient à peu près, mais c'est pas sûr. Hein. Mais bon, en même temps, des objets comme ça, on n'en a pas non plus pléthore. Donc, on va essayer de faire confiance à Perrault. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc, la tête présente le portrait de la défunte avec une coiffure typique. C'est ce qu'on appelle la coiffure en nid d'abeille, avec toutes ces petites montagnes de boucles très mignonnes. Qui date donc de l'époque flavienne, donc le dernier tiers du 1er siècle après Jésus-Christ. Et donc là, on voit bien un portrait bien daté, etc. Le corps, lui, est un peu mixte, on va dire. Le drapé rappelle vraiment les représentations des femmes classique, en paliata, ce qu'on appelle vraiment tout emmailloté, serré dans son vêtement, ce qui n'empêche pas d'être un peu sensuel parce que du coup ça fait ressortir toutes les formes féminines. Mais, et d'un autre côté, il y a des éléments qui font penser plutôt à une divinité, notamment les chaussures qui sont des chaussures ouvertes, qui ne correspondent pas du tout à la forme de la paliata. Et le fait que dans la main gauche, elle tient un bouquet de pavots et d'épis de blé.
Donc là, il n'y a pas photo, c'est Cérès.
C'est Cérès, voilà. En fait, quand on regarde les images, on se rend compte qu'à un certain moment, les femmes de la famille impériale ont commencé à se faire représenter en Cérès, en Fortuna, etc. Et elles ont détourné des formes et ont mixé un peu les choses. Et c'est exactement ce qui se passe nous ici. En fait, il y a une espèce de mixte entre plusieurs formes statuaires qui permettent à la fois d'avoir une statue funéraire assez classique, enfin une statue féminine, romaine, typique, et en même temps de suggérer qu'il y a quelque chose en plus. Et ce quelque chose en plus, c'est le lien à Cérès. Alors, au départ, on pensait qu'elle était en Cérès tout court, sauf que le type statuaire est vraiment très différent. C'est vraiment plutôt le portrait d'une femme romaine. Mais le fait qu'on fasse quand même des références par petites touches à Cérès montre qu'il y a quand même un lien entre cette femme et Cérès. Et le lien qu'on peut éventuellement voir, c'est que ce soit une prêtresse. Et ce qui est intéressant, c'est que les femmes qui avaient ce rôle dans la société, en général, faisaient partie d'une société notable. Donc, ce qui correspond assez bien à une statue en marbre. Même si elle fait moins d'un mètre, elle est quand même, c'est quand même pas n'importe qui.
Puis même le maintien, enfin bon, il y a quelque chose.
Elle est très distinguée, ça c'est sûr. Puis la sculpture est de bonne qualité quand même. C'est pas, évidemment, il y a mieux, mais honnêtement, elle est quand même de qualité.
Et alors moi, ce que je trouve que le titre en est vraiment très juste, femme en prêtresse de Cérès.
Oui, voilà.
Voilà, elle est représentée dans
sa
un
fonction,
rôle.
Oui. Dans sa fonction, un peu comme on parlait de Licinia tout à l'heure, qui se fait représenter en flaminique. Donc ça, c'est très intéressant pour nous.
Alors, la dame d'à côté n'est pas aussi bien coiffée, je trouve.
Alors, c'est une autre coiffure, c'est ce qu'on appelle la coiffure en turban, qui permet de la dater du début du IVe siècle, donc on est quand même un peu plus tardif.
Oui.
Alors là, pour le coup, on n'est pas sûr que la tête corresponde avec le corps. Je la présente quand
D'ailleurs,
même.
D'ailleurs, on voit une démarcation bien
oui,
nette.
Oui, là, j'avoue que là, j'ai plus de doutes. Mais bon, je me suis dit que c'est quand même intéressant de parler parce que je sais que ça existe ailleurs. Hein, donc, ça permet quand même d'illustrer le propos. Donc, c'est toujours donc, un portrait funéraire sur une statue. Mais là, pour le coup, on est bien sur une statue de divinité.
Ah oui.
Voilà. Alors, elle vient du chemin de Beaucaire à Nîmes. Et elle fait 87 cm, c'est-à-dire elle est à peu près de la même dimension que celle dont on vient de parler. Donc là, la personne s'est fait représenter en Fortuna. Alors c'est une Fortuna qui a un costume un petit peu différent des Fortuna que l'on voit le plus souvent. Elle est, en fait, c'est d'après ce que j'ai pu voir sur les spécialistes des images de Fortuna, c'est un mixte entre le costume de Fortuna et de Diane un petit peu. C'est quelque chose, ça arrive souvent dans la statuaire romaine où on mixe un peu les choses. Il y a énormément de variantes des typologies. Et ce que l'on sait par les spécialistes, notamment Hans Fred, c'est que on trouve pas mal de femmes en Fortuna au IIe et au IIIe siècle. C'est vraiment la grande mode. Donc là, on est un petit peu plus tardif, mais c'est dans cette mode de représentation en Fortuna. Et ça, c'est intéressant pour expliquer en fait pourquoi les gens se font représenter en divinité. Alors ça, c'était une question qui a fait travailler les chercheurs pendant des années, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout et qu'on a du mal à comprendre. Alors, cette mode, elle est arrivée à Rome via toujours la Grèce, où ce genre de choses se faisaient en fait. Les chercheurs ont sorti deux hypothèses pour comprendre. Moi, je dirais que les deux hypothèses n'en font qu'une parce que je pense que les deux, à mon avis, sont valables. Première hypothèse, c'est une interprétation religieuse où on dit qu'on a là une forme d'apothéose du défunt. On lui donne, en fait, en lui donnant la forme d'une divinité, on lui espère une éternité d'âme, on va dire. D'autres ont une interprétation plus sociale où on dit que c'est une forme commémorative pour mettre en avant une position importante de la famille, du défunt, et illustrer le rôle de la personne. Par exemple, quand on choisit une fortuna, on peut penser que cette femme a eu peut-être un rôle économique ou elle a fait quelque chose dans sa famille qui a fait qu'elle a apporté beaucoup de fertilité, fécondité ou d'argent. Enfin, voilà, elle a apporté du bien. Sous quelle forme, on ne sait pas, mais voilà. Alors ça, c'est des hypothèses qu'on peut faire.
Et alors, autant, alors dans sa main gauche, c'est clair, hein,
la corne d'abondance. Oui.
Et alors, dans l'autre main,
alors, l'autre main, malheureusement, il manque un bout. Normalement, elle est censée avoir un gouvernail, puisque la fortune, elle peut être bonne et elle peut être mauvaise. C'est-à-dire que Fortuna, quand elle a un peu de travers, comme on dit, elle n'est pas très gentille.
Et d'ailleurs, ça se voit sur elle, elle n'est
voilà,
pas commode.
Elle n'est pas commode. Et donc, le gouvernail, c'est pour montrer les aléas de la vie, justement. Parfois tout se passe bien, puis des fois ça se passe mal. Donc comme quand on est marin, on le sait bien, la mer peut être démontée et dangereuse, ou sinon tout se passe bien. Là c'est vraiment un symbole très fort de la fortuna.
Très bien, ben, marquons encore une petite pause musicale et encore avec l'âne d'or dont je ne me lasse pas, et puis ensuite on ira voir d'autres dames. À tout de suite.
À tout de suite.
Antiquissimo avec Cécile Carrier nous permet de voir toutes ces dames enterrées, commémorées avec des stèles merveilleuses au musée de la Romanité.
Oui,
alors,
tout à fait.
Cynthia Honorata.
Cynthia Honorata. Alors, juste, je pense à quelque chose. C'est que là, on a parlé de la femme en prêtresse de Cérès.
Ah oui.
J'avais dit qu'elle était dans le funéraire. Pour la dame en Fortuna, elle est en religion parce qu'on voulait illustrer la déesse Fortuna. Je tenais à le préciser parce que c'est vrai qu'on pourrait la chercher. Et là, on va revenir dans l'espace funéraire avec voilà, notre chère Cynthia Honorata, que j'aime beaucoup. Quand je l'ai découverte, elle était en réserve couchée, la pauvre. Elle aussi, elle porte une coiffure en nid d'abeille, mais beaucoup plus haute. Donc, elle est certainement beaucoup plus tardive que l'autre. Alors, là, on est dans ce qu'on appelle la stèle à portrait, dans des stèles qui sont un peu différentes de celles qu'on a vues pour Licinia et Agenus. C'est une stèle qui est plus haute et plus fine,
oui.
Où il n'y a qu'un seul portrait de défunt. C'est un peu entre la stèle qu'on a vue des stèles des gladiateurs qui étaient toutes fines et l'autel. C'est un peu la grosse stèle quadrangulaire, c'est un peu un entre-deux, on va dire.
Est-ce qu'elle a un collier ou c'est le pli du vêtement ?
Non, c'est le pli du vêtement.
D'accord.
C'est le pli du vêtement. Donc là, on a le... Ah, je vais y arriver. On a donc le bloc qui est rectangulaire dans le sens de la hauteur, avec juste le buste du défunt et l'inscription qui permet, voilà, comme pour Columbus, on a vu tout à l'heure, dans un cadre, on a l'inscription avec le CV de la personne. C'est comme ça qu'on sait le nom de Cynthia Honorata.
Mais là, c'est plus rudimentaire, hein, les informations.
Alors oui, mais par contre, on a le portrait. Alors que pour Columbus et Gracilis, on n'avait que l'inscription. Donc on est quand même sur un niveau assez élevé quand même. Et on est sur sur du 1m30 de hauteur. Donc ça fait déjà une belle pièce quand même, mine de rien. Et en plus, celle-ci, elle a été trouvée à Nîmes. Elle est de Nîmes.
Et à quel endroit on sait ?
Alors, elle a été retrouvée, on va dire, dans le couvent des Augustins, qui était devenu une espèce de lieu où on ramassait tout
oui,
ce qu'on...
Oui, une sorte de lapidaire.
Voilà, c'est ça, de musée lapidaire. Donc,
Elle était couchée, c'est-à-dire elle avait le visage...
Alors, c'était des stèles plantées, comme celle de Columbus, mais sauf que, évidemment, elles sont découvertes, tombées, donc elles sont dans un état plus ou moins correct, selon si elles ont pris la pluie, etc.
Bah, en tout cas, elle a perdu pas mal de choses.
Elle
quand
a perdu,
même.
Surtout au niveau du visage. Autant oui. La coiffure est très bien conservée, autant le visage est complètement abîmé, malheureusement, oui.
Oui, parce qu'on devine à peine les yeux, mais c'est tout,
ouais,
quoi.
Ouais, ouais. Alors, pour c'est vrai que nous, pour la recherche, l'essentiel, c'est d'avoir la coiffure, parce que ça nous permet de la dater. Mais c'est vrai que c'est pour le visage, c'est dommage.
Mais c'est vrai que cette coiffure, bien reconnaissable, elle est très haute. Hein, là.
Ah, elle est
un peu pointue.
Oui, et donc ce qui fait dire qu'elle est probablement plus tardive que celle de précédente.
Donc voilà pour Cynthia Honorata. Et
On a Caesonia Oraya, qui a une stèle un peu plus large, hein, qui nous fait plus penser à celle de Lucinia et à Genus. C'est une stèle, cette fois-ci, plus conséquente en poids aussi. Et elle est plus sophistiquée que celle de Cynthia Honorata également, puisque en plus du buste, on a toute une décoration de rinceaux tout autour.
Oui, il y a un cadre.
Voilà, donc ça fait partie de ces stèles à portrait et à rinceau, puisque des fois on a des stèles à rinceau, des fois on a des stèles à portrait, mais là on a les deux. Donc c'est un petit décor un peu plus raffiné, donc on est un peu plus déjà dans un travail un peu plus...
Mais c'est plus volumineux aussi.
Elle est beaucoup plus volumineuse, oui. Elle est moins haute, mais elle est beaucoup plus large et beaucoup plus profonde.
Puis on voit que l'assise...
Là on est vraiment sur l'équivalent de la stèle à portrait comme celle de Licinia ou de Julia Privata, mais avec un seul défunt.
Et alors, qu'est-ce qu'on nous raconte de cette dame ?
Alors, cette dame, on nous raconte donc qu'elle s'appelle Caesonia Oraya. Et elle aussi, elle a été préservée au couvent des Augustins, mais on ne sait pas d'où elle vient exactement, en dehors de ça. Et donc, par la coiffure, c'est une coiffure à la Plotine ou à la Sabine. Donc, on est dans la première moitié du IIe siècle. Voilà, donc c'est une coiffure à bandeaux superposés, en fait. Alors, ça ne ressemble pas tout à fait au turban qu'on avait vu
tout à l'heure.
Non, c'est encore différent. C'est plus simple.
Et alors, est-ce que l'inscription, puisque là, je n'arrive pas à déchiffrer...
Je ne l'ai pas notée complètement.
Elle nous dit qui elle est ou...
Il n'y a pas tellement de précision. Non, pas tellement. C'est pas... D'ailleurs, ça se voit, il y a deux lignes. Hein, c'est vraiment... Mais là, c'est vrai que je ne les ai pas notées, les inscriptions, je n'ai pas pensé. J'étais partie sur mes portraits de mes petites dames. Et c'est vrai qu'on a de la chance parce qu'on a, toute une série de dames qui nous permet de voir l'évolution de la coiffure.
Voilà,
quand on
c'est
veut
ça,
faire
il y a une variété, une déclinaison.
Oui. Parce que Licinia, elle a encore quelque chose d'un petit peu différent aussi.
Ah oui. Alors, là, il y a du monde, puisque il y en a deux.
Passe, voilà, là, on va passer au stèle à portrait plus conséquent. En fait, je monte en puissance. Donc, on est sur la stèle de Julia Talouza.
Ceux-là aussi sont nos amis.
Hein, Julia Talouza. Alors, sa stèle a été dédiée par son compagnon, qui s'appelle Lucius Julius Hésicus, et qui est représentée à côté d'elle. Donc, on a les deux portraits en buste. Hésicus, en fait, ce qui est intéressant, parce que l'inscription le note bien, c'est qu'il est sévir augustal. C'est-à-dire que c'est un affranchi qui a pu réussir socialement et se faire rire, sévir. Donc ça, c'est intéressant pour lui. C'est une belle réussite sociale. Et Julia Talouza montre que, évidemment, elle a réussi en arborant de belles boucles d'oreilles avec des perles. Donc, à regarder de près, hein, parce que c'est, elles sont bien, bien distinctes, bien visibles. Alors, cette stèle, elle est, pour que les gens puissent la retrouver, elle est du côté des inscriptions. Elle n'est pas du côté funéraire.
Et là, la photo date du musée archéologique ancien, non ?
Oui, je faut que j'aille la photographier, parce que c'est justement en la regardant, je me suis dit, mince, j'ai pas de photo dans le nouveau musée, mais elle est du côté des inscriptions.
Et alors, ce qui est beau, c'est la symétrie entre les deux.
Ah oui, alors ça, c'est typique des représentations. On le voit dans la stèle de Julia Privata. Ils sont alors en buste. Les bustes, on voit pratiquement pas la différence entre les vêtements féminins et masculins, presque. Parce que c'est vraiment quelques traits en diagonale pour montrer l'encolure. Et puis,
Ça fait une sorte de fusion.
Ah oui, pour le coup. Après, il y a des stèles plus sophistiquées qu'on peut retrouver en Italie, où les bustes sont plus hauts. Et on a une partie des bras, un peu comme pour la stèle de Julia Privata, où on voit un petit peu les bras.
Oui.
Ils sont vraiment plus ras, quoi.
Et en même temps, bon, ils ont une allure, bien qu'ils ne soient pas tout jeunes, mais ils ont une allure juvénile, tous les deux, là.
Oui, bah, de toute façon, en général, les traits sont assez succincts aussi, donc du coup, ça lisse les visages.
Et elle a une coiffure assez ordinaire, hein, celle-ci.
Oui, elle n'a pas de coiffure typique. C'est plus par l'homme et par l'étude de l'épigraphie qu'on a pu la dater de la fin du 1er et du début du 2e siècle, en fait.
Et alors à côté, effectivement, alors elle est très très remarquable et remarquée.
Oui, alors j'ai remis la stèle de Julia Privata, ouais. Mais on ne va pas trop en reparler parce qu'on en a beaucoup parlé lors de l'émission, la première émission qu'on avait faite sur le funéraire. Mais juste pour rappel, c'est donc un monument funéraire qui, aujourd'hui, on voit deux registres de trois portraits. Mais il faut imaginer qu'il y avait un troisième registre au-dessus qui a disparu où il y avait un dernier portrait. D'un des petits-fils de Julia Privata.
Donc, famille nombreuse.
Donc, c'est une famille, voilà. Donc, il y a Julia Privata à qui est dédié le tombeau, qui est accompagnée de son deuxième mari, de sa fille et du mari de sa fille, et de deux petits-fils et de la petite-fille. Voilà. Donc, ça permet d'avoir un tombeau familial. Et comme il y a les inscriptions de tout le monde, et qu'il y a les tria nomina pour un certain nombre d'entre eux, Michel Christol a pu reconstituer tous les liens familiaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant.
Oui,
donc,
c'est mieux que l'ADN, en fait.
Ah ben ça, c'est clair. Ouais, là, pour le coup, et en plus, entre l'analyse de l'inscription et l'analyse des coiffures, on est tombé d'accord sur les datations vraiment et sur le cursus de cette famille. Donc le tombeau, on peut le dater entre 90 et 120. Après Jésus-Christ, et les coiffures, on voit que les coiffures sont pas tout à fait toutes identiques. On a des coiffures de l'époque flavienne, c'est-à-dire de la fin du dernier tiers du 1er siècle. Et Julia Privata, elle a une coiffure qui est déjà à la plotine, donc entre la fin du 1er siècle et le début du 2e. Donc ça, c'est intéressant de voir. Et pour les messieurs, c'est pareil. On voit une évolution entre, on va dire, fin Néron flavien et jusqu'à Trajan. Donc on voit qu'au fur et à mesure, on a sculpté les gens dans la coiffure dans laquelle ils sont au moment de leur vie. Et ce qui est étonnant, c'est que Julia Privata est la plus ancienne, elle est l'aînée, mais
et
c'est elle qui a la coiffure la plus récente.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Donc
oui. C'est
assez étonnant.
Elle reste moderne.
Elle suit la mode.
C'est ça. Et alors, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, ce qui est adorable, c'est les bras, quoi, qui sont disproportionnés.
Oui, qui sont disproportionnés. Et ce qui est intéressant, c'est que les hommes tiennent le rouleau, alors qui est extrêmement stylisé, on dirait presque un cube qu'ils tiennent, mais c'est le rouleau de parchemin pour montrer, comme tous les togati, enfin tous les hommes en toge qu'on a en statuaire. Et quand ils ont pu, ils ont essayé de mettre bien comme il faut les doigts pour qu'on puisse voir l'anneau au doigt qui permet de sigiller les courriers pour montrer qu'ils ont réussi, qu'ils sont importants et qu'ils sont montés dans l'échelon social. Parce que parmi eux, il y a quand même des affranchis, donc des anciens esclaves, et des non-citoyens qui, par mariage, donc des pérégrins, qui par mariage avec, alors ça c'est Quartinus, l'époux de Julia Privata, par le fait que Julia Privata est une citoyenne,
il bénéficie
du coup du port de la toge, alors qu'il n'est pas lui-même citoyen, mais du coup, il rentre dans un certain cénacle par son mariage. Et ça, c'est intéressant.
Alors, ce qui est formidable, c'est qu'ils ne sont pas forcément très beaux, tous ces personnages, mais ils sont touchants.
Oui, ben c'est surtout, ils sont tels quels, quoi.
Il y a une naïveté dans la représentation.
Oui, ben ils sont moins lissés que les portraits impériaux, donc ils sont plus naturels.
Mais
plus
on
nature.
Voit qu'ils ont dû donner consigne à l'artiste.
Ah oui,
voilà.
oui. Ah ben
il faut
oui,
qu'on
oui.
ait l'air.
Oui, il n'y a pas trop de rides hein, quand même. Hein, pas non plus, on ne voit pas trop de différence d'âge entre Lulia Privata, sa fille et sa petite fille, honnêtement.
Oui.
S'il n'y avait pas la coiffure qui diverge.
Mais alors ça, c'est peut-être une coquetterie, un peu d'égocentrisme de la matrone, de la chef. Il nous reste une minute pour cette deuxième émission. Aurons-nous le temps de parler de la stèle du laboureur?
Au moins commencer la stèle du laboureur et puis on gardera la suite pour la prochaine émission. Donc, c'est une stèle qui se trouve tout à fait à la fin de la vie quotidienne. Après les vitrines, sur justement tout ce qui est agricole.
Et c'est tout à fait normal hein, qu'elle soit située là, parce qu'on y voit bien qu'il y a une typologie du travail. Là.
Et voilà, exactement. Là, on est dans la représentation de la vie quotidienne dans la statuaire funéraire.
Alors, on va se quitter sur ces derniers mots
et
on y reviendra.
On y reviendra à la prochaine émission.
Très bien. Merci beaucoup, Cécile.
Merci. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Alliance Plus.